choix.
Choix.
98.1
Radio X.
Morning Live. Real talk, talk real. The business of the world with Miguel Ouellette.
Mon cher Miguel, tu es salué.
Salut Dom, tu es salué aussi.
On est dans la classe, dans la salle de classe, toi le prof, et là, il y a les gauchistes qui font leur folie, l'autre bord de la rivière, et on a lu beaucoup de choses, et j'ai présenté également beaucoup de trucs hier concernant la décroissance. Le principal objectif de cette gauche-là, évidemment, c'est un mot qui fait peur, mais c'est un mot qu'on prononce de plus en plus. Hier même, on a joué des extraits tantôt, même hier, Jean-François Lisée et l'ancien attaché de presse de Stephen Harper, ma foi du bon Dieu, ça me tente quasiment de le rejouer à Miguel, l'extrait. Je ne sais pas si tu peux le récupérer, Dan. Il était dans Légion, l'extrait. Les deux semblaient d'accord avec ça. Les deux, ça prend de la décroissance, puis tout ça. C'est ça. Alors que c'est une attaque frontale contre notre économie de marché. On écoute ça.
Si on voulait ne pas se rendre à 2 degrés et plus, il faudrait réduire la production et la consommation mondiale de tous les biens. La croissance verte, ça ne marchera pas. Ça prend la décroissance. Mm-hmm. Et ça, convaincre la planète d'être en décrue, c'est titanesque comme objectif.
Jean-François a complètement raison que ça prend la décroissance dans certains secteurs.
Pas de bon sens.
Et le défi est le suivant. La décroissance veut dire que des centaines, sinon pas des millions d'emplois vont disparaître.
J'en reviens pas, Miguel.
Ça n'a pas de sens.
Puis, c'est capoté.
Qu'est-ce qui est triste là-dedans, c'est que c'est une idée là, qui date du 18e siècle. C'était Thomas Malthus, un démographe anglais, qui disait que la croissance de la population puis celle de la production était insoutenable et que les ressources de la planète seraient bientôt épuisées. Donc, le calendrier Maya, là, ça ne date pas des nouveaux écologistes du 21e siècle, ça date du 18e siècle. Puis finalement, on se rend compte que ce n'est pas arrivé l'apocalypse qu'on prévoyait. Là.
Quel est le raisonnement? Je vais tenter de comprendre ces gens-là. Quel est le raisonnement derrière tout ça? Prends le temps de nous expliquer ça.
Bien, à la base, la décroissance, là, c'est un concept qui est non seulement économique, mais aussi politique et social. Donc ça, en fait, ça prône la réduction de la consommation. Donc, au final, c'est de dire, présentement, le Canada, on consomme trop, les États-Unis, même chose, l'Europe. Donc, il faut réduire notre consommation. Puis, ceux qui sont pour la décroissance vont regarder des macro-indicateurs comme le produit intérieur brut, le PIB, puis le niveau de population, puis ils vont se dire, ça augmente beaucoup trop, il faut réduire ça. Donc, qu'est-ce qu'ils pensent? C'est que l'amélioration des conditions de vie de l'humanité qu'on a vues dans les dernières années, parce que ça, souvent, ils oublient de nous le dire, là, que la mortalité infantile a diminué, que tout le travail que les enfants...
Ouais, c'est bon ça, professeur. Moi, je lève ma main dans la salle de classe. Le professeur, élaboré là-dessus, quels sont les points où on s'est amélioré? Très bon.
Il y en a tellement. Fait que si on parle, comme je disais, de mortalité infantile, ça a diminué. Le travail effectué par les enfants, ça a diminué. Le niveau de pauvreté absolue, là, il était à 80 % il y a 2 siècles. Maintenant, il est à 10 %. Donc, c'est quand même une amélioration incroyable. Ça, c'est grâce, entre autres, au capitalisme. Ensuite, le nombre d'heures travaillées a diminué. Les inégalités entre les hommes et les femmes ont diminué. Le taux de mortalité, la malnutrition, l'espérance de vie, ça a augmenté. Donc, on voit que le monde s'améliore sans cesse, surtout depuis la révolution industrielle, mais les gens qui prônent la décroissance se basent sur une prémisse qui est archi-fausse de dire que les compagnies et les économistes croient qu'on peut faire une croissance infinie dans un monde de ressources finies. Mais ça me prouve juste une chose, c'est qu'ils n'ont jamais suivi un cours d'économie 101, parce que dans tout cours d'économie, on dit qu'il y a des ressources limitées. Il n'y a personne, je pense, qui est assez fou pour croire qu'il y a des ressources illimitées. Je serais même prêt à dire que la seule organisation qui tend à croire qu'il y a des ressources illimitées, c'est parfois le gouvernement.
Comment tu vois la reconfiguration ou la réorientation de l'économie? Parce que l'économie doit continuer de croître, mais en même temps, on va convenir ensemble qu'on ne peut plus construire des usines de charbon comme avant. Là. Je veux dire, ouais. La Chine continue, la Chine est totalement... La Chine est devenue de plus en plus un paria militaire, un paria industriel, un paria écologique. Ça, je pense qu'il faut en convenir. On veut une planète propre. Il y a un consensus là-dessus. Il n'y a personne qui veut respirer du charbon à longueur de journée. Ça n'existe pas, là. Mais non. Comment t'entrevois les 15 ou 20 prochaines années avec la recherche et le développement, le génie humain qui explose dans cette ère de concurrence-là accrue? Comment, toi, tu vois ça comme économiste?
Bien, je pense qu'il faut regarder ça d'un œil ou en fait d'une tête assez logique et rationnelle, de se dire que plus de la moitié des déchets polluants de nos océans proviennent de 5 pays. Donc, la Chine, l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam et le Sri Lanka. Donc, c'est surtout ces pays-là qui polluent en ce moment dans le monde. C'est vrai qu'au Canada, aux États-Unis et certains pays européens, on pollue aussi. Mais quand on regarde la pollution par capita, ça diminue année après année au Canada à cause, entre autres, de l'innovation technologique puis aussi notre shift vers une économie un peu plus « verte » entre guillemets et aussi du cadre réglementaire qui est présent. Mais si on regarde ça, là, le Canada, on est seulement responsable de 1,6 % de tous les GES émis mondialement. On est une petite fourmi dans un océan. Puis si on ne fait pas de coopération internationale avec justement la Chine, l'Indonésie, le Vietnam, l'Inde, ça n'arrivera pas. On ne pourra pas diminuer les GES à nous seuls.
Mais là, les gauchistes vont dire « Ouais, mais monsieur le professeur, là, il faut regarder le per capita. » Eux autres, ils nous amènent là-dessus. Mais moi, je préfère regarder la facture au complet, le total... De la pollution à la grandeur de la planète, quelle est la contribution canadienne? Tu l'as dit, c'est 1,5. Et la contribution québécoise, le chiffre exact, je ne sais pas si tu l'as, mon cher Miguel.
C'est 0,02. Donc, ouais. À nous
ça prend
seul,
un tramway, ça prend un tramway. Ouais,
c'est ça. Exact. On ne peut pas faire cavalier seul. Puis, moi, je suis parfaitement d'accord qu'il faut réduire nos GES qu'on mm-hmm. émet. C'est totalement d'accord de protéger l'environnement. Je pense qu'au Québec, on a présentement un cadre environnemental qui est relativement très strict. Contrairement à beaucoup de pays. Donc, on en fait déjà beaucoup. Moi, c'est quand que ces écologistes-là nous disent on n'en fait pas assez au Québec, on en fait même... c'est comme si on n'en fait pas pantoute. Mais en fait, ce n'est pas vrai. On a une taxe sur le carbone au Canada, on a le marché du carbone au Québec. Toutes les politiques environnementales qui sont en place, on en fait déjà beaucoup. Puis une autre chose qu'il faut regarder, c'est que tu as parlé de charbon. Donc, ces gens-là vont dire il y a encore les États-Unis, la Chine, l'Inde qui roulent sur le charbon. Donc là, la façon rationnelle de voir ça, c'est de se dire, bon, ben, c'est quoi l'énergie de transition? Ben, c'est le gaz naturel. Donc nous, après ça, les écologistes vont nous dire, ben, au Québec, on ne veut pas en produire de gaz naturel parce qu'on ne veut pas en importer, ça va polluer. Mais là, c'est qu'à un moment donné, on nous dit, il y a des problèmes, mais on n'accepte plus non plus les solutions. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ça que les économistes, on est en train de se dire, ben, s'il y a un problème puis on ne peut pas avoir de solution, il faut faire quoi? Il faut attendre ou…
Parce que regarde GNL, ça aurait été projet pour aider à la transition, entre autres, en Allemagne. Parce que ça, la production issue de ce port-là, la production de gaz aurait été dirigée vers l'Europe pour aider à la transition. Mais les gauchistes, les plus délurés, eux autres, ils veulent la révolution. C'est du jour au lendemain, fini le pétrole. Ben, ça ne fonctionne pas comme ça dans la vie.
Ben non, c'est ça. Puis le pétrole, on va en avoir besoin pendant longtemps. Puis d'ici 2040, la demande de pétrole va augmenter de 9 %. D'ici 2045, la demande de gaz naturel va augmenter de 29 %. Donc, le monde a besoin de ces ressources-là. Je suis parfaitement d'accord de dire que individuellement, on peut regarder notre consommation puis essayer de prendre des produits qui sont plus équitables, qui sont plus verts. Mais quand certains de la gauche nous disent qu'ils veulent la décroissance au Québec, puis nous disent on veut davantage de simplicité volontaire, mais j'appelle pas ça simplicité volontaire quand c'est une simplicité forcée. Parce que moi, ça me dérange pas que tu achètes un lopin de terre au Saguenay-Lac-Saint-Jean puis tu aies joué au Amish. J'ai aucun problème à ce que tu fasses ça. Mais là, quand on vient dire l'économie, les entreprises ne comprennent pas qu'il y a des ressources finies, donc on va leur imposer la décroissance, ça, c'est très dangereux. Puis une autre chose qu'il faut dire aussi, c'est que souvent, il y a certains Québécois qui nous disent il faut protéger davantage l'environnement. Mais nous, on a mandaté la firme Ipsos de faire un sondage, de demander aux gens combien vous seriez prêts à payer par année pour réduire les émissions de GES au Québec. La moyenne des gens nous a dit à peu près 166 $ par année. Mais 166 $ par année, là, c'est très peu si on fait la décroissance, parce que si on fait la décroissance, nos niveaux de vie vont diminuer, il faudra consommer moins, ça va nous coûter extrêmement cher par année, pas mal plus qu'un léger 166 $ par année. Déjà, avec toutes les politiques environnementales en place, on est à bien plus que 166 $.
Qu'est-ce que tu penses comme économiste de la nomination du gars de Greenpeace comme ministre de l'Environnement?
Bon, mais c'est sûr que je pense que ça envoie un message politique clair que le gouvernement veut aller de l'avant avec davantage de protection de l'environnement. Moi, j'ai aucun problème.
T'es-tu inquiet pour l'Alberta, par contre? C'est un radical, le gars.
Oui. Effectivement, il a été militant avant et tout ça. Mais j'ai aucun problème que le gouvernement nous dise, nous, notre objectif, c'est de protéger davantage l'environnement. Moi, le problème survient quand le gouvernement nous dit, je veux protéger l'environnement et les politiciens vont avoir carte blanche pour le faire. Ça, c'est extrêmement dangereux parce que là, on arrive avec des idées électoralistes à place des idées qui sont basées sur des faits économiques, des évidences empiriques. C'est ce que je trouve qui est dommage au Canada en ce moment parce qu'on se positionne tellement comme un énorme pollueur dans le monde alors que c'est faux, qu'on donne carte blanche à nos politiciens. Puis au final, on vient vraiment faire mal aux gens, surtout en région. On crée davantage d'inégalités économiques puis on ne tient pas en compte la réalité des habitants, disons, du Saguenay, de la Côte-Nord, de l'Abitibi, de la Mauricie. Ça, c'est qu'est-ce que je trouve qui est plate là, d'en donner carte blanche à nos politiciens comme Stephen Guilbeault. Qu'est-ce qui va se passer? Là?
Merci beaucoup, Miguel.
Merci à toi, Dom.
Merci, bye.